Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Aujourd'hui, eh bien, l'Église nous fait célébrer la fête de Saint Paul de la Croix. Lorsque Saint Paul de la Croix est né, il y eut une lumière extraordinaire dans la petite pièce où il est né, une lumière si éclatante que toutes les lumières qu'on avait allumées ne paraissaient plus, surpassées par cette lumière extraordinaire. Il a eu des parents chrétiens qui avaient le souci de l'éduquer, de lui faire connaître notre Seigneur Jésus-Christ, de faire connaître le Père du Ciel, la Sainte Vierge, bien sûr, pour lui inculquer une bonne dévotion. Mais quelque chose l'avait frappé beaucoup. C'était la croix de Jésus. C'est pour ça qu'on l'appelle Paul de la Croix. Il a été très impressionné lorsqu'on lui parlait de la passion de Jésus, lorsqu'on lui apprenait ce que Jésus avait souffert. Il ne comprenait pas au début. Il disait, mais comment ? Jésus qui n'a fait aucun péché, Jésus qui est descendu du ciel pour nous sauver, pour nous aimer, voilà qu'on le met à mort, comment ça se fait que les hommes ne l'ont pas aimé ? Ça l'a beaucoup marqué. Il restait de longs moments à regarder le crucifix, comme s'il parlait au bon Dieu. Et le bon Dieu lui a fait comprendre que c'était parce qu'il nous aimait qu'il a voulu souffrir sur cette croix, qu'il a voulu endurer toutes ses souffrances. Et plus il pensait, plus son amour du bon Dieu augmentait. Alors, il aimait à se retirer souvent dans le silence, dans la solitude, pour penser à Jésus, pour penser à cette passion. Et un jour, il est passé près d'une petite chapelle que les hommes avaient bâtie en l'honneur de la Sainte Vierge. Et en entrant dans la petite chapelle pour aller honorer la Sainte Vierge, il a reçu une grâce de comprendre qu'il fallait tout quitter. Quitter ce monde, quitter toutes ses richesses pour suivre le bon Dieu. Mais il y avait un problème, c'est que dans sa famille, il devait aider ses parents qui avaient une grande famille. Alors il était un peu le soutien de cette famille. Alors il aurait bien voulu partir, mais ses parents avaient encore besoin de lui. Alors il restait, mais son cœur désirait. Et Jésus lui est apparu un jour avec un vêtement tout noir, sur lequel il y avait une petite croix blanche. Jésus lui a fait comprendre que c'était le vêtement qui rappelait le deuil de la passion et qu'il aurait beaucoup à souffrir. Et plus tard, c'est la Sainte Vierge qui lui est apparue, alors elle était revêtue de ce manteau noir. Et sur le manteau, alors, il y avait encore en plus un cœur blanc et sur lequel il y avait une croix. La Sainte Vierge lui a fait comprendre qu'il devrait fonder une congrégation, c'est-à-dire fonder une communauté religieuse qui aurait comme but de méditer la passion de Jésus. Il a dit, moi je voudrais bien, mais mes parents ont encore besoin de moi. La Sainte Vierge lui a dit, ne t'occupe pas. Alors il est rentré, il a demandé à ses parents s'il acceptait, parce que la Sainte Vierge lui avait fait comprendre cela. Alors bien sûr, ils étaient tristes, les parents, mais enfin ils ont accepté qu'il puisse partir. Alors il est parti, et pendant 40 jours, il est allé loger dans une petite cellule qui était sous un escalier près de l'église. Et là, il y avait un peu de paille, il dormait sur cette paille, c'était pas très confortable, mais il faisait pénitence pour manger. Il recevait un peu de pain pendant 40 jours. Il a fait pénitence, il a jeûné. Et pendant ces jours, eh bien, il a été inspiré pour écrire toutes les règles pour la congrégation. Ensuite, il est allé à Rome. À ce moment-là, c'était le pape Benoît XIII qui l'a encouragé à fonder cette congrégation. Son frère l'a suivi, est venu le premier le rejoindre, a dit « Bon, moi je veux faire comme toi ». Déjà quand il était petit, il suivait son frère et ainsi ils se sont retrouvés. Puis d'autres sont venus. Et alors il parcourait les villages parlant de ce que le bon Dieu nous aime. Qu'il fallait souvent regarder le crucifix, la croix, qu'il fallait les mettre partout, dans les coins de rue, dans les champs, pour rappeler que c'est le symbole de l'amour du bon Dieu pour nous. Si le bon Dieu a voulu souffrir tout cela par amour pour nous, il ne fallait pas le mépriser, au contraire, il fallait l'aimer, il fallait se renoncer, il fallait aussi prendre nos croix. Voilà la vocation de Saint Paul de la Croix. C'est la congrégation des passionnistes. Ils sont habillés en noir avec un cœur blanc surmonté d'une croix blanche. On n'en voit plus beaucoup aujourd'hui, autrefois ça se voyait davantage. Ils annonçaient à tous, n'oubliez pas combien Jésus vous a aimé. Si Jésus a souffert la passion, c'est qu'il a attaché beaucoup d'importance à vos âmes. C'est qu'il veut vous offrir le ciel et que le ciel se gagne difficilement. On ne peut pas gagner le ciel sans la croix. Alors, prenez courage, portez votre croix. Eh bien, aujourd'hui, on va demander à saint Paul de la Croix de nous faire aussi apprécier Jésus crucifié. Voyez, ça, c'est la grande sagesse. Vous avez entendu l'épître de saint Paul aujourd'hui, qu'est-ce qu'il dit, hein? Là, ça, c'est la sagesse de Dieu, la croix. Les gens du monde, eux, ils ne comprennent pas la croix. Pour eux, la croix, c'est une folie. Vous voyez, c'est ce qu'il dit saint Paul. Les gens du monde, on ne comprend pas ça. C'est trop dur, non, ce n'est pas pour nous. Vous voyez, c'est de la folie. Ils se croient sages, mais ils s'en foutent. La vraie sagesse, c'est la sagesse de Dieu. Un jour, ils verront, quand ils paraîtront devant Dieu, ils diront, mais qu'est-ce qu'on a été imbéciles. Mais qu'est-ce qu'on a été sots. Nous qui avons cru être les grands du monde, les savants, les sages, les sachant tout, on a passé à côté de la sagesse. On était des ridicules. Oui. Un jour, ils diront cela. Parce qu'il n'y a que Dieu qui est vraiment sage. Et ceux qui essayent d'acquérir cette sagesse de Dieu. Alors demandons à saint Paul de la Croix de nous aider à comprendre cette sagesse de Dieu, cet amour de Dieu qui nous a manifesté sur la croix. Demandons aussi à la Sainte Vierge, qui est apparue aussi, donc, revêtue de cet habit noir, de nous obtenir la grâce d'aimer les croix, de les porter chaque jour. Nous avons tous les jours des croix à porter. Demandons-leur la grâce, donc, de bien les porter courageusement. Si nous portons la croix, nous irons au ciel, car la croix, c'est la clé du ciel. Sans la clé, on ne peut pas rentrer dans le ciel. Sans la croix, on ne peut pas rentrer dans le ciel. Alors demandons-leur pendant cette messe. Et tous les jours aussi, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Il y avait en Arménie, dans la ville de Sébaste, un brave médecin que tout le monde aimait beaucoup. Il était déjà très vertueux et il aimait à se soucier de tous ceux qui avaient des souffrances, qui avaient des maladies. Il allait leur rendre visite. Enfin, si bien que tout le monde recourait à lui. Et un jour, tous les habitants de Sébaste ont décidé de le choisir comme évêque. Ils se sont dit, eh bien, il faut aussi qu'il soigne nos âmes. Alors ils l'ont choisi comme évêque. Ce médecin, c'était saint Blaise. Vous n'avez peut-être pas beaucoup entendu parler de lui. Et une fois devenu évêque, bien sûr, il s'est rendu compte de sa charge. Ce n'était pas rien, quelle responsabilité, responsabilité des âmes. Alors il décide de se retirer quelque temps sur une montagne, dans une caverne, pour supplier le bon Dieu, pour faire un peu comme Jésus. Jésus, avant de commencer son ministère, s'était retiré 40 jours dans le désert, sans manger ni boire pendant 40 jours et 40 nuits. Alors lui s'est retiré dans la montagne, il a trouvé une grotte, la montagne d'Argé, pas loin de Sébaste. Et là, il restait en prière. Mais qui est-ce qui venait le trouver là? Les animaux féroces de la montagne, des lions, des ours, des tigres, des loups, venaient dans la caverne. Ils aimaient à venir demander la bénédiction de saint Blaise. Et quand ces animaux avaient quelques blessures, ils venaient aussi et saint Blaise les guérissait de leurs blessures. Quelquefois, il était pris en contemplation, en méditation. Tellement il était uni à Dieu, il ne se rendait plus compte de ce qui se passait autour de lui. Et les animaux ne voulaient pas partir tant qu'ils n'avaient pas reçu la bénédiction et quelques caresses. Il venait tous les jours et même plusieurs fois par jour. Il se plaisait à rester avec saint Blaise. Et un jour, le gouverneur de Cappadoce, Agricola, est arrivé dans la ville de Sébaste et il a demandé à ce soldat d'enchaîner tous les chrétiens qui se trouvaient dans la région. Et comme il y en avait déjà dans les prisons, et qu'il y en avait un grand nombre qu'on avait encore amené, eh bien il s'est dit, on va les mettre à mort en les jetant aux fauves, aux bêtes féroces. Alors il a envoyé des gens dans la montagne pour aller ramasser un peu toutes les bêtes féroces qu'on trouvait, pour pouvoir les mettre dans le cirque et faire manger tous ces prisonniers, tous ces chrétiens. Alors des hommes sont allés, ils ont cherché, et ils ont vu un attroupement de bêtes féroces là-haut, vers la caverne, ils sont allés, ils se sont dit, ça y est, là on en a tout un groupe, on va essayer de les attraper avec leurs filets, avec leurs pièges, tout ça. Et quand ils sont arrivés, ils ont vu la caverne, ils sont entrés dans la caverne, et ils ont vu saint Blaise, mais ils ne le connaissaient pas. Il était tellement dans la prière qu'il ne les a même pas remarqués. Et j'étais très surpris de voir tous ces animaux féroces autour qui ne faisaient rien. Alors ils sont descendus voir le gouverneur Agricola et lui ont raconté ce qu'ils ont vu. Alors le gouverneur fait venir quelques soldats et dit, vous l'amenez ici en bas, c'est pas normal. Alors ils sont montés, ils l'ont pris. Quand ils sont arrivés, il était encore en prière, alors ils l'ont appelé. Et là, l'empereur nous dit que tu dois descendre. Alors il revient à lui, il reprend conscience. Alors il les invite, il leur dit, soyez les bienvenus. Il y a longtemps que je soupire après votre arrivée. Bien sûr, le bon Dieu l'avait éclairé de ce qui allait se passer. Alors il se réjouissait de ce moment. Il savait bien qu'il venait le chercher pour l'emmener devant le gouverneur et pour être martyrisé. Et alors il dit, eh bien, allons au nom de Dieu. Et ils sont descendus de la montagne. Agricola le fait venir et il lui dit, je suis ravi de vous voir, Blaise. « Cher ami des dieux immortels !» Alors Blaise lui répond, « Dieu vous garde, ô gouverneur, mais ne donnez pas le nom de Dieu à ces êtres, à ces esprits qui ne peuvent pas faire du bien. » Alors cette réponse n'a pas plu du tout au gouverneur. Il s'est irrité et il a quand même essayé de, par des paroles flatteuses, de le conquérir, mais il était tellement colérique et il avait tellement une haine d'après les chrétiens qu'il ne pouvait pas supporter. Il s'était rendu compte dans cette réponse qu'il n'était pas d'accord avec les dieux romains. Alors il fait venir des bourreaux et il le fait frapper à coups de bâton pendant 2 ou 3 heures de temps. Et il se frappait fort, hein, coups de bâton. Il avait des bleus partout, des os cassés. Et lui, il était resté plein de joie pendant ses tourments et il a même dit à l'empereur, ô trompeur des âmes, insensé que tu es, penses-tu que tu vas pouvoir me séparer de Dieu par tes tourments? Non, non, jamais. Le Seigneur est avec moi et c'est lui qui me fortifie. C'est pourquoi tu peux faire de moi tout ce que tu voudras, mais jamais tu ne me sépareras de mon Dieu, tant il aimait le bon Dieu. Il savait bien que c'était le vrai Dieu et que rien ne pouvait le séparer. Alors l'empereur furieux, il le fait mettre en prison, sans nourriture, sans rien. Alors une brave veuve est venue lui apporter à manger dans la prison. Lui au début ne voulait rien prendre, il dit non je vais, alors, le bon Dieu se débrouillera. Alors elle a supplié qu'il prenne quelque chose. Alors il a pris volontiers puis il lui a dit, eh bien, en récompense, je t'accorderai tout ce que tu demanderas au bon Dieu. Et elle est partie. Et elle avait quelqu'un qui était malade dans sa famille, alors elle a supplié le bon Dieu au nom de Saint Blaise, au nom de Blaise qui était en prison, et le bon Dieu a exaucé sa prière, la malade était guérie. Bien sûr, elle a raconté ça autour d'eux, et puis bientôt, on amena une quantité de malades dans la prison où se trouvait Blaise. Et il les guérissait, il faisait des signes de la croix et les guérissait. Et un jour, il y avait une maman qui avait son enfant, qui avait mangé du poisson un peu trop vite. Une arête s'était crochée dans la gorge. Ça avait percé l'œsophage, ça commençait à s'enfler, et l'enfant étouffait, il pouvait à peine parler, à peine respirer. Alors, toute malheureuse, elle voyait qu'il était mourant, elle la porte vite à Blaise, et Blaise lui fait un signe de la croix sur la gorge, il prie le bon Dieu, et l'enfant est immédiatement guéri, il rentre à la maison comme si de rien n'était. Cela se disait partout, alors on amenait beaucoup de malades à guérir. Et ensuite, le gouverneur Agricola fait revenir de nouveau Blaise devant lui, et il essaye encore, il dit, sacrifie à nos dieux romains. Et Blaise, bien sûr, de nouveau, il n'y a rien à faire, ce ne sont pas des dieux, c'est les démons, oh Dieu, c'est les démons que vous adorez. Et alors, de nouveau en colère, il le fait attacher à un poteau, et il le fait déchirer avec des ongles de fer, partout. On a arraché sa peau, sur tout le corps. Bien sûr, le sang coulait à flot, mais lui, il restait joyeux de nouveau. Pourquoi il pouvait rester joyeux pendant ces tourments si atroces? Parce qu'il était fortifié de Dieu, voyez. Il avait une telle confiance en Dieu, eh bien Dieu le fortifiait. De nouveau furieux, Agricola le fait remettre en prison, pensant qu'il allait réfléchir après ses douleurs, après ses souffrances, peut-être qu'il reviendrait, qu'il céderait, mais rien à faire. Il le fait revenir, il dit, maintenant, cède, offre des sacrifices à nos dieux. Et de nouveau, Blaise n'y a rien à faire. Eh bien, si tu refuses, on te fera souffrir encore plus et on va te précipiter dans le lac. Il y avait un lac pas loin de Sébaste. On t'attachera une pierre au cou. Et Blaise lui faisait comme si ça ne lui faisait rien. Alors on l'a emmené. Il a fait le signe de la croix. On l'a poussé sur le lac et lui s'est mis à marcher sur l'eau. Il est allé jusqu'au milieu du lac. pensez bien à la colère d'Agricola, hein, était mécontent. C'est un magicien que notre gaillard, là. Beaucoup de monde était là autour du lac, les soldats, là, le gouverneur et des chrétiens aussi. Alors, au milieu du lac, il enseigne. Puis, tout d'un coup, une lumière éclatante est venue entourer Blaise. Il entendit une voix qui lui dit « Ne crains pas, tu vas bientôt recevoir la couronne. » À ce moment-là, Blaise leur dit à lui, « Alors maintenant, implorez un peu vos dieux. Demandez-leur que vous puissiez marcher sur l'eau. » Alors ils ont imploré leur dieu, puis 65 soldats, croyant que les dieux allaient les exaucer, ils se lancent dans le lac, et bien sûr, ils sont noyés dans les eaux. Et à ce moment-là, Blaise revient au bord du lac. Et là, Agricola, furieux, ne pouvait plus supporter, et puis il y avait des gens qui se convertissaient, ça le mettait encore plus en furie. Alors il a décidé de lui couper la tête. Mais avant qu'on lui coupe la tête, Blaise dit au bourreau, « Attends un petit peu. » Le bourreau surpris, il est resté si calme devant la mort. Et à ce moment-là, il fait une prière à Dieu. Il recommande bien sûr tous ceux qui ont assisté à ses souffrances, qui assisteront à sa mort. Et il demande à Dieu d'exaucer tous ceux qui l'invoqueraient pour leur maladie ou pour le secours qu'ils auraient besoin. Et à ce moment-là, une voix se fit entendre dans le ciel. Et c'est Dieu qui disait, « J'ai entendu ta prière et j'exaucerai ceux qui demanderont le secours par ton nom. » Ensuite, les bourreaux lui ont coupé la tête, avec deux enfants qui étaient là aussi, qui ont témoigné de la foi, qui étaient encore jeunes. Ils ont coupé la tête à Saint-Blaise et à ses deux enfants. Eh bien, dans certains livres de médecine, mais des anciens livres de médecine, il y avait écrit comme remède pour certaines douleurs, pour certains maux, surtout pour la gorge, qu'il fallait implorer Saint-Blaise. Un médecin grec, je ne me souviens plus son nom, disait à ses malades, « Eh bien, si vous avez des problèmes avec la gorge, que vous n'avez pas comment guérir, priez Saint-Blaise. » Et il priait Saint-Blaise. Et il y a eu beaucoup de cas où les personnes malades ont été guéries en priant Saint-Blaise. Comme le bon Dieu avait promis d'exaucer ceux qui prieraient au nom de Saint-Blaise, seraient guéris. Alors depuis, on a la bénédiction des coups de la Saint-Blaise. Après la messe, vous aurez d'ailleurs aujourd'hui aussi, on vous bénira les coups avec des cierges qui ont été bénis par leur prière au jour de Saint-Blaise. Peut-être le bon Dieu n'exaucera pas toujours, mais au moins, on a demandé. Si le bon Dieu n'exauce pas, c'est qu'il sait que c'est mieux comme ça. Alors vous lui faites confiance. Voyez, mais quelquefois, ça peut arriver que le bon Dieu exauce, qu'il nous guérisse de nos maladies. Alors il nous faut demander à Saint-Blaise de nous guérir, surtout des maladies les plus terribles. C'est les maladies de l'âme. Ça, c'est les maladies les plus graves. Qu'est-ce que c'est les maladies de notre âme? Les maladies de notre âme, c'est nos défauts, nos mauvaises tendances, notre difficulté à obéir, à nous impliquer à notre travail, notre tendance à la paresse, notre tendance au mensonge, notre tendance à la moquerie, notre tendance à la distraction. Tout ça, c'est les maladies de notre âme. Alors, il faut demander, bien sûr, les maladies de nos corps, mais surtout les maladies de notre âme. Que nous soyons toujours plus agréables au bon Dieu. Demandons aussi à la Très Sainte Vierge Marie. Blaise a dû aimer beaucoup la Très Sainte Vierge. Oui. Et on fête aujourd'hui Saint Blaise parce qu'il est mort le 3 février en l'an 316. Alors vous voyez, ça fait déjà longtemps. Hein. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Aujourd'hui, eh bien, l'Église nous fait célébrer la fête de Saint Grégoire. Alors, Saint Grégoire avait fait des quantités de miracles. Mais le bon Dieu permet que certains saints font plus de miracles que d'autres parce que c'était à des moments nécessaires. Vous savez que le miracle, c'est la signature du bon Dieu. Ça veut dire, quand le bon Dieu permet que des saints font des miracles, c'est pour que les gens croient ce que le saint dit. Et il y a eu beaucoup de miracles au début de l'Église parce qu'il fallait dire aux païens, « Quittez votre religion !» Quittez ces faux dieux, renversez les temples, et puis croyez à des mystères. C'était pas facile, ça attirait pas tellement les païens. Les religions païennes étaient beaucoup plus faciles, on se laissait aller à tous les désordres, c'était sympathique. Et alors tout d'un coup on vient leur dire, non, non, il faut arrêter tout ça, il faut mener une vie de pénitence, une vie de sacrifice, croire à des choses que vous comprenez pas. Oh ben mes amis, les païens étaient pas très encouragés. Alors le bon Dieu permettait que ces saints faisaient des miracles. Comme ça, quand les gens voyaient ces miracles, ils disaient, oh ben, Alors, ça, c'est la signature du bon Dieu. C'est qu'il a dit la vérité. Ce qu'il dit, c'est la vérité. Alors, il faut le croire. Voilà. Pourquoi le bon Dieu permettait ces miracles? Il y en a beaucoup moins aujourd'hui parce que nous avons déjà les miracles du début de l'Église qui sont là pour nous prouver à nous aussi, pour fortifier notre foi. C'est ça, on fait des miracles. Donc, c'était les hommes de Dieu. Et ce qu'ils ont enseigné, eh bien, c'était la vérité. C'était l'enseignement de Dieu. Dieu n'aurait pas permis qu'ils puissent faire des vrais miracles s'ils racontaient des histoires. Les vrais miracles, il n'y a que Dieu qui peut les faire. Ou les saints, quand ils sont très amis avec Dieu. Alors, Saint Grégoire avait fait des quantités de miracles. Mais Saint Grégoire, quand il est né, ses parents n'étaient pas chrétiens. Ils étaient des païens. Il est né, oh, on ne connaît pas exactement la date, mais à peu près vers 190-195. Oh, ça fait déjà longtemps, hein. On est en 1995, et c'était vers les 195, ça fait déjà 1800 ans. Il est né à Néo-Césarée, c'est dans le Pont, dans l'Asie mineure. Puis, à l'âge de 14 ans, son père est mort. Et à ce moment-là, le bon Dieu lui donnait des grâces actuelles. Vous savez ce que c'est que la grâce actuelle? Des lumières qui lui faisaient travailler son esprit, puis qui disaient, tout c'est Dieu, il y a des quantités de Dieu. Ça tient pas bien debout, cette affaire. Un seul Dieu, c'est quand même plus raisonnable. Bon, il réfléchissait. Enfin, ça le travaillait, ça le travaillait. Et puis, toute cette vie désordonnée que les dieux encourageaient. Enfin, il réfléchissait, il était de moins en moins attiré par le paganisme. Puis, sa maman lui donnait une bonne éducation, parce que son papa lui avait dit, tu auras le souci de donner une bonne éducation aux petits. Alors, elle l'avait mis dans les grandes études. À Néo-Césarée, c'était une grande ville, il y avait des savants, des universités. Alors, il est allé faire des études de droit pour apprendre à défendre les causes, aller comme avocat. Il était un élève brillant, il s'appliquait à étudier, il s'était donné beaucoup de peine, tout le monde l'admirait. Il avait beaucoup de qualités, beaucoup d'intelligence. Il avait entendu parler d'un certain Origène, qui était un savant, qui était à Néo-Césarée. Alors il est allé avec son frère, Athénodore. Alors ils sont allés ensemble, c'est des drôles de noms, mais enfin, c'est des noms de là-bas. Il est allé avec son frère chez Origène. Ils étaient en admiration de voir la sagesse, la profondeur d'Origène, et c'est Origène qui leur a fait connaître la religion chrétienne. Parce que lui était un savant, un écrivain catholique, et il avait une université. Alors ils se sont intéressés à cette religion, puis ils ont dit, bien nous aimerions bien nous faire baptiser. Alors Origène leur a dit, bon, pour vous faire baptiser, il faut que vous appreniez davantage encore qui est notre Seigneur Jésus-Christ, et ensuite vous pourriez vous faire baptiser. Puis est arrivé persécution des chrétiens, l'empereur Maximin. Alors Origène a dû partir, se cacher. Il a dû quitter la ville pour ne pas se faire prendre et se faire tuer. Saint Grégoire, eh bien, il est allé, lui, à Alexandrie. Alexandrie est une grande ville aussi, réputée pour ses universités. On y apprenait beaucoup de choses. Et eux se préparaient pour le baptême. Alors tout le monde les admirait parce qu'ils étaient d'une conduite remarquable. Pourtant, ils n'étaient pas encore catholiques, mais édifiants. C'est tellement édifiant que les autres étudiants qui venaient, qui étaient un peu relâchés, ils étaient tout confondus, tout honteux, à côté de la vie que menaient Saint Grégoire et son frère. Alors ils étaient pleins de jalousie. Oui, des fois, quand on est vertueux, quand on essaie de vivre comme le bon Dieu veut, les méchants ne sont pas contents, parce qu'on est un reproche pour eux. Le bon Dieu leur donne des grâces aussi actuelles, qui leur dit, regarde-moi ceci, eux, ils vivent comme il faut, toi tu vis comme un patachon, c'est pas bien ça. Alors ils étaient jaloux. Et un jour, ils ont payé quelqu'un pour l'accuser d'avoir fait un gros péché. Saint Grégoire était avec d'autres jeunes étudiants, puis ils étaient en train de parler de ce qu'ils avaient appris dans les cours. Puis voilà que cette personne arrive, puis elle dit, je veux que tu me payes pour le crime que tu as commis. Puis tous les autres qui étaient là, surpris, comment Grégoire, il fait des choses si vilaines? C'est pas possible. Et puis alors ils ont dit, mais non, c'est pas possible, Grégoire, il fait pas des choses comme ça. Puis elle insistait, oui, il a fait des choses terribles. Alors je veux qu'il me paye pour ça. Alors Grégoire, pour qu'elle parte, puis qu'elle laisse la paix, il a dit, allez, tiens, prends ça. Et les amis ont cru que Grégoire avait fait ce crime. Et au même moment que la personne avait reçu cet argent, à ce moment-là, le diable est entré dans son corps et elle a commencé à hurler, à se rouler par terre, à baver, criant que Grégoire n'avait pas fait ce crime-là, que c'était pas vrai, que c'était la menteuse, mais elle était vraiment possédée du diable. Tout le monde était effrayé. Alors Grégoire a fait une prière au bon Dieu et le démon a quitté cette personne et elle a filé, elle était honteuse, elle est partie. C'était encore une occasion
pour montrer la vertu de Saint Grégoire.
Et ensuite, il est revenu dans son pays. Il s'est fait baptiser. Et puis tout le monde admirait, si bien que l'évêque d'Amassé se dit, je vais le sacrer évêque. Mais Grégoire, il ne voulait pas ça. Quand il a su ça, il est parti se cacher dans le désert. Et alors on recherchait. Dès que Saint Grégoire s'aperçoit qu'on allait le retrouver, il partait à un autre endroit. Et ainsi de suite, il fuyait toujours pour pas qu'on puisse le trouver et le faire évêque. Parce que c'était un honneur, bien sûr, d'être évêque, mais une responsabilité. Et pour finir, à la longue, il a quand même accepté. Parce qu'il s'est dit, si c'est la volonté du bon Dieu, il ne faut pas toujours fuir la volonté du bon Dieu. Sinon, on ne lui est pas agréable, on ne lui fait pas plaisir. Alors, comme il voulait faire plaisir au bon Dieu, il a accepté. Et quand il est venu à Néo-Césarée, il y avait seulement, c'était une grande ville, 17 catholiques. Et que 17 chrétiens, pas plus. C'était pas très encourageant. Tout le reste, tous les autres, c'était des païens. Alors, il a commencé à prêcher. Et comme il faisait de nombreux miracles, les gens croyaient sa doctrine. C'était pas toujours facile. Renoncer à la vie facile, à la vie des païens, pour apprendre, se faire baptiser, puis faire des sacrifices, pas toujours très agréable, voyez. Mais, comme il voyait faire des miracles, puis qu'il était si bon, alors les gens étaient d'accord, convertissaient, et puis connaissaient de plus en plus Jésus-Christ. Puis un jour, il s'est rendu dans une région, ils ont été surpris par un orage terrible. Que faire dans la campagne? Il y avait un temple païen qui se trouvait pas loin. Alors vite, avec son compagnon, ils sont allés se réfugier dans ce temple pour se faire prendre par la foudre. Et alors, ils ont passé toute la nuit à prier. Et comme c'était un temple païen, Saint Grégoire a tout de suite fait des signes de croix. Puis le lendemain matin, ils sont repartis. Et puis le prêtre, qui vient le matin pour rendre les cultes aux faux dieux, il entre dans le temple. Puis il trouve que c'est bizarre, c'est curieux. C'est plus comme avant. Pourtant, il n'y avait rien de changé, mais c'est plus la même chose. Alors, il allait offrir ses sacrifices et les démons venaient. Les démons venaient toutes les fois dans le temple et il exauçait les demandes des prêtres païens. Alors, les démons sont venus puis lui ont dit, on ne peut plus rester dans ce temple-là. Mais qu'est-ce qui se passe? Non, on ne peut plus rester dans ce temple. Depuis que cette nuit, il y a deux voyageurs qui se sont arrêtés, on ne peut plus rester dans ce temple. Furieux, il se renseigne. Il court après les deux qui étaient passés là, Saint Grégoire et son compagnon, et puis il leur dit, qu'est-ce que vous avez fabriqué? Vous êtes rentrés dans le temple, et maintenant, ceux qui exaucent nos prières ne peuvent plus venir dans le temple. Alors Saint Grégoire leur dit, ça, c'est des démons. Et j'ai le pouvoir de les chasser, et aussi le pouvoir de les faire revenir. Alors le prêtre païen est surpris, comment? Il a le pouvoir de faire revenir mes dieux? Il est plus fort que mes dieux? Lui, il ne croyait pas que c'était des démons, il croyait que c'était ses dieux. C'était les faux dieux, c'était les démons. Il est plus fort que mes dieux. Comment est-ce possible? Alors il dit, on va voir si c'est vrai. Faites-le revenir, on verra bien si c'est vrai. Facile à dire les choses, mais il faut voir si c'est vrai. Alors Saint Grégoire a permis aux démons de revenir dans le temple. Quand il est arrivé dans le temple, les démons étaient de nouveau là. Alors il est retourné vers Grégoire, il a dit, toi tu es plus fort que mes dieux, alors c'est quelqu'un, tu as un dieu encore meilleur, alors je veux croire ce que tu enseignes. Et il a voulu se convertir, mais quand le Saint Grégoire a expliqué un petit peu les mystères de la religion, puis le mystère de l'incarnation, alors là, il ne comprenait plus rien, le pauvre. Il disait, c'est pas possible, comment Dieu peut se faire homme? Mais ça va plus. Là, je ne crois pas. Et alors, à ce moment-là, le prêtre dit, eh bien, si tu fais quelque chose d'extraordinaire, je croirai, mais autrement, je ne crois pas. Alors, il y avait là, pas loin, un énorme caillou. D'une grandeur extraordinaire. Il dit, si tu arrives à déplacer ce caillou sans le toucher, alors je croirai. Et Saint Grégoire, il a dit à ce caillou, va à cet endroit-là. Et le caillou est parti, il a changé de place. Alors le prêtre a dit, non, alors là maintenant je crois. Tu as vraiment le vrai Dieu. Alors il s'est converti et il s'est fait défenseur des droits de notre Seigneur Jésus-Christ. Il faisait des miracles, alors ça se disait partout. Près de la ville de Césarée, il y avait un fleuve, et lorsqu'il y avait des grosses pluies, les gens n'avaient pas fait les digues comme on a ici. Le Rhône est endigué. Autrefois, le Rhône n'était pas endigué, alors il s'étendait sur toute la plaine à certaines périodes. Alors c'était pareil. La rivière sortait de son lit et il a ramassé les moissons. Il y a les maisons qui s'écroulaient. Enfin, c'était le désastre. Toutes les cultures étaient ravagées. Et alors, Grégoire est arrivé, planté le bâton. Il a dit, dorénavant, tu ne dépasseras plus cette limite-là. Et ce bâton, qui était un bois sec qu'il avait pour se déplacer, il a planté, il l'a laissé là. Le bâton s'est mis à pousser des racines, puis est devenu un grand arbre,
Et jamais le fleuve n'a dépassé la limite du bâton. Plus jamais. C'était une protection pour la ville. Il faisait des miracles à tour de bras. Un jour, il y a des religieux qui voulaient construire un monastère. Ils ont trouvé un endroit parfait. Ah, ça, ce serait un bel endroit. Cependant, il n'y avait pas assez de place entre la montagne et le fleuve. Ce serait vraiment l'idéal, mais on n'arrive pas à bâtir le monastère là, parce qu'il n'y avait pas assez de place. Alors, Saint Grégoire est arrivé, la fin de prière, et la montagne s'est reculée. Et puis, il y a eu assez de place pour construire le monastère. Et ils ont construit le monastère, qui est resté pendant des nombreuses années. Voilà, le bon Dieu a permis que Saint Grégoire faisait tant de miracles. Et alors, quand il est mort, il avait 75 ans, eh bien, il n'y avait plus que 17 païens dans la ville de Néo-Césarée. Quand il a commencé son ministère à Néo-Césarée, il y avait 17 catholiques, et quand il est mort, il n'y avait plus que 17 païens. Tous les autres étaient devenus catholiques. Formidable. Voilà, eh bien, alors, il nous faut demander à Saint Grégoire de nous aider à aimer Jésus comme il a aimé, et puis à devenir des saints. Bon Dieu nous appelle tous à devenir des saints, mais il faut demander la grâce, voilà, d'être fidèle à la doctrine et de bien apprendre cette doctrine sainte. Saint Grégoire connaissait beaucoup de sciences, il avait tout quitté. Quand il a connu la religion chrétienne, il a quitté toutes ses sciences. Il a dit, pour la science des saints, j'abandonne toutes les autres sciences. Il a arrêté la rhétorique, il a arrêté le barreau, il a arrêté toutes les sciences naturelles pour s'intéresser qu'à la science des saints. Et est devenu un grand saint. Il nous faut demander à Saint Grégoire qui nous donne ce désir, cette science des saints, qui nous fera aller au ciel et qui nous rend agréables à Dieu, les vrais amis de Dieu. Demandons ça à Saint Grégoire et à la Sainte Vierge. Il a dû beaucoup aimer aussi, et qu'il a aidé d'ailleurs, qu'il lui a obtenu beaucoup de grâce, et qu'elle nous obtienne cette grâce de devenir aussi des saints pour qu'un jour on soit au ciel, puis qu'on aille le rencontrer, Saint Grégoire et tous les autres saints. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Sainte Catherine a été choisie pour être la patronne secondaire du Valais. C'est pourquoi en Valais, c'est une fête de deuxième classe. Et d'ailleurs, on dira le credo après à cause de cela. Sainte Catherine, qu'en fait aujourd'hui, il ne faut pas confondre avec Sainte Catherine de Sienne. Sienne, c'est une ville en Italie, hein, qui a eu aussi sa sainte, Sainte Catherine, toute grande sainte. Non, la Sainte Catherine d'aujourd'hui, c'est Sainte Catherine d'Alexandrie. Qui c'était cette Sainte Catherine d'Alexandrie? Sainte Catherine d'Alexandrie est née il y a déjà bien longtemps. C'était en 289. Alors vous voyez, ça fait déjà bien des siècles. Hein? On est en 1993, et bien c'était en 280. Et c'était pas n'importe qui. Elle était la fille du roi d'Alexandrie qui s'appelait Cortus. Alexandrie était une ville très importante, une ville très savante, où venaient des professeurs, des savants réputés pour enseigner dans les écoles d'Alexandrie. Alors des gens venaient d'un peu partout pour apprendre à Alexandrie. C'était réputé. Et bien sûr, le roi voulait que sa fille fasse aussi des études. Alors il l'avait envoyée dans ses universités, ses collèges, pour être formée. Et un jour, voilà que l'empereur romain, qui était à ce moment-là Maximin, était de passage à Alexandrie. Et vous savez que l'empereur ne se déplaçait pas tout seul. Hein. Il était toujours entouré de ses serviteurs, des conseillers et toute une cour, voilà, qui était là avec lui. Il allait faire des campagnes, il allait faire des guerres quelquefois. Il est arrivé à Alexandrie et il voulait remercier les dieux romains d'avoir eu des victoires. Alors, il a convoqué tous les gens d'Alexandrie, et il y en avait, hein, pour venir au temple, le temple de Sérapis, qui était au centre de la ville. Et il fit un édit, donc tout le monde devait venir, et les chrétiens qui ne viendraient pas seraient mis à mort. Sainte Catherine était dans son palais, et tout d'un coup elle entend des mugissements d'animaux, elle entend une grande population qui s'assemblait au temple. Elle demande à un de ses serviteurs, qu'est-ce qui se passe? Et le serviteur dit, vous savez pas, mais l'empereur est là, et il veut offrir des sacrifices aux dieux romains, alors il a convoqué tout le peuple. Alors on amène des animaux, à ce moment-là on offrait des animaux en sacrifice, sur l'autel du temple. Alors Sainte Catherine
voyant arriver tout ce monde, elle descend et elle voit parmi tous ces gens des chrétiens qui avaient peur de se faire persécuter. Alors ils allaient là, ils n'étaient pas très contents, mais enfin ils allaient là pour pas... Enfin, s'ils n'y allaient pas, les autres disaient, eh bien, et puis toi, tu dois venir aussi, si tu n'y as pas attention, hein, tu te fais mettre à mort. Alors des fois ils étaient dénoncés, puis on les persécutait. Alors il y en avait de ceux qui avaient peur, d'autres ils s'étaient cachés, d'autres ont profité pour dire, moi je dois aller travailler dans la campagne, alors ils partaient dans les champs. C'était pas toujours facile. Et quand Sainte Catherine vit cela, elle avait que 18 ans, Sainte Catherine à ce moment-là, elle vient au temple et elle s'adresse à l'empereur, qui était en haut à l'autel, en train d'offrir les sacrifices. « Ô empereur !» s'écrie Sainte Catherine. « Votre dignité, votre rang et la raison devraient faire que je vienne vous saluer. Si vous adoriez le vrai Dieu, le vrai créateur de toutes choses, mais votre esprit est tourné vers les idoles. » Elle continuait de disputer avec l'empereur, qui était tout surpris. Comment une jeune fille ose interpeller l'empereur dans le temple en train d'offrir ses sacrifices? Et elle continuait en disant, tu as fait venir ici tout ce peuple pour rendre un culte au faux Dieu. Cesse donc de rendre des cultes au faux Dieu. Tu admires ce temple merveilleux, c'est vrai, mais qui a été fait de main d'homme. Tu admires ces ornements sacrés aussi, qui un jour te changeront en poussière et seront emportés par le vent. Et tu ne vois pas tout ce monde que Dieu a créé, ces ornements du ciel que sont le ciel, la lune et les étoiles, tout cet ordre qu'il y a, toute cette sagesse dans cette création. Tu ne vois pas cela, tu devrais rentrer en toi-même et admirer et dire, eh bien voilà, je dois adorer ce Dieu qui a fait tout cela et non pas des idoles faites par les mains d'hommes. Alors l'empereur, comprenez, il était bien surpris. D'une part, de voir qu'une jeune fille s'adresse à lui en plein dans le temple avec tout ce monde qui était là. Et d'autre part, Sainte Catherine était très très belle. D'une remarquable jeune fille, d'une beauté admirable et puis d'une sagesse incroyable. Alors l'empereur, ne savait pas trop quoi répondre. Alors il dit, cesse donc, femme, laisse-nous finir le sacrifice et on verra tout ça après. Alors il a demandé à ses serviteurs de la conduire dans son palais. Il a fini le sacrifice et il revient au palais. Puis il lui dit, mais qui es-tu? Alors il lui dit, la sagesse ne veut pas qu'on parle de soi. La sagesse ne veut pas qu'on se vante. Mais je le ferai aujourd'hui pour te dire la vérité. Je suis la fille du roi. Je suis née dans la richesse, dans la pourpre. J'ai reçu une grande formation dans cette ville. J'ai appris toutes les sciences que l'on enseigne dans ces universités. Mais à tout cela, j'ai préféré la plus belle des sciences. J'ai préféré la science de Dieu. Et pour cela, j'ai laissé tout le reste. Pour tous les honneurs qui m'étaient préparés, j'y ai renoncé. Et j'ai préféré notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu fait homme. Alors, l'empereur lui dit, mais alors à ton avis, il n'y a que toi qui as raison et tout le monde entier se trompe en adorant les dieux romains, les dieux de l'Empire. Et elle a vu qu'il s'était un peu irrité. Et l'empereur continue en disant, normalement, on n'écoute pas quelqu'un qui croit avoir seul raison. Il faut qu'il y ait au moins plusieurs qui ont raison pour qu'on écoute, que ça vaille la peine d'écouter. Les philosophes ne sont pas d'accord avec toi. Alors, elle lui dit, ne vous énervez pas, ce n'est pas raisonnable que de s'énerver et l'énervement trouble l'esprit et on ne peut plus parler sagement. Alors, il dit, maintenant j'ai autre chose à faire, on va voir dans un petit moment. Il l'a fait emporter et entre-temps, il fait convoquer tous les philosophes, tous les plus grands professeurs qui étaient à Alexandrie et dans toute la région, tous les plus grands savants, 50 savants et philosophes. Il les fait venir à toute vitesse. Alors les philosophes, très surpris, comment l'empereur nous fait venir? Qu'est-ce qui peut bien se passer? C'est un ordre impératif. Et l'empereur leur dit, il y a ici une jeune fille d'une sagesse remarquable. Elle m'a parlé, je n'ai pas tellement su quoi répondre, tellement j'étais émerveillé par sa sagesse. Mais vous, je vous ai fait venir, et si vous arrivez à la convaincre que son Dieu, son Jésus-Christ, n'est pas le vrai Dieu, mais les dieux des Romains sont les vrais dieux. Je vous couvrirai d'honneur et vous remplirai de richesses. » Alors le plus savant parmi eux se dit: « Et tu nous fais venir pour disputer avec une jeune fille ? Oh, ça valait bien pas tellement la peine, mais enfin, pour ce que tu veux nous offrir, on veut bien essayer. Tu sais que jamais personne ne nous a résisté, ce sera vite fait. » Alors on convoque Sainte Catherine, et Sainte Catherine s'adresse à l'empereur en lui disant: « C'est un combat bien injuste auquel tu me soumets. Moi, jeune fille, tu me fais disputer avec ces 50 philosophes, ces 50 savants. À eux, tu leur promets une grande récompense s'ils arrivent à me convaincre que je suis dans l'erreur. Tandis que moi, tu ne me donnes aucun espoir de récompense. » Elle savait très bien. Le bon Dieu l'avait éclairé, le Saint-Esprit l'avait éclairé. « Cependant, ma récompense, ce sera notre Seigneur Jésus-Christ. » Et alors, un des philosophes lui dit: « Comment est-ce possible qu'un Dieu puisse se faire homme? Comment est-ce possible qu'un Dieu puisse souffrir? Jamais on a entendu des choses pareilles. Tu ne connais pas Dieu, tu n'as aucune intelligence de Dieu. Dieu est un esprit. » Alors elle ne pouvait pas prendre la Sainte Écriture pour leur parler, puisque c'était des païens. Alors elle leur a pris les philosophes. Elle a dit: « Mais n'avez-vous jamais lu dans Platon ? Platon qui parle de Dieu, Platon était un philosophe réputé, et il vénérait Platon, que Platon parlait de Dieu avec une forme humaine. Et puis, dans la Sibylle, il a été écrit aussi que Dieu serait élevé sur la croix. » Et elle a continué à sortir un peu tout ce que disaient les anciens philosophes et tout ça. Et pas un de ces philosophes n'osait ouvrir la bouche. Alors l'empereur, voyant cela, il commence à s'irriter. « Comment, vous autres, vous vous laissez confondre par une jeune fille comme ça? Moi, on n'a jamais vu des choses pareilles. Alors réveillez-vous un petit peu. » Et le plus intelligent des philosophes se lève et dit à l'empereur: « Jamais personne n'a réussi à nous convaincre. Jamais personne n'a réussi à avoir le dessus sur nous. Mais cette jeune fille est assistée de l'Esprit de Dieu. Et si toi, tu n'arrives pas à nous convaincre que les dieux romains soient les vrais dieux, nous sommes prêts à croire que Jésus-Christ est le vrai Dieu. » Vous pensez que l'empereur était devenu furieux avec ça? Alors immédiatement, il fait venir ses soldats et il fait dresser un bûcher et il dit: « Préparez-moi un grand bûcher, attachez-moi tous ces philosophes et mettez-les dessus, brûlez-les. » Et Sainte Catherine encourageait les philosophes: « Allez, courage, vous aurez une récompense, notre Seigneur Jésus-Christ. » Et les philosophes disaient: « Mais nous n'avons pas été baptisés, est-ce que nous pourrons entrer au ciel ?» Alors Sainte Catherine leur dit: « Ne vous inquiétez pas, pour vous ce sera le baptême de sang. Vous mourrez en témoignage de notre Seigneur Jésus-Christ, vous êtes des martyrs de notre Seigneur Jésus-Christ. » Et les philosophes sont allés sur le bûcher, on a mis le feu, et chose étonnante, même pas leurs cheveux, même pas leurs habits n'ont été brûlés. Ils sont morts, mais ils n'ont pas été touchés par les flammes. Ils sont morts, bien sûr, de cette souffrance du bûcher, mais le feu n'a rien fait sur eux. Alors l'empereur fait revenir Catherine, et alors il essaie une autre ruse. Et il dit: « Tu vois, si tu acceptes d'adorer les dieux romains, je t'offrirai une belle place au palais. Je te donnerai, après l'impératrice, la plus belle place. Je ferai même sculpter une statue en ton honneur, et je demanderai à tous les habitants d'Alexandrie d'adorer la statue en ton honneur. Et puis je te couvrirai de bijoux, des perles les plus précieuses, je te donnerai tous les trésors que je puisse te donner. » Alors Sainte Catherine lui dit: « Cesse donc tes discours, sont insensés tes discours. Il n'y a qu'un seul que je veux aimer et que je veux adorer, c'est Dieu, le vrai créateur de toutes choses, notre Seigneur Jésus-Christ. » Alors il a vu que sa ruse ne marchait pas. Alors il dit: « Ah, c'est comme ça, eh bien tu vas voir. » Alors ils font venir les bourreaux et ils la font flageller, frapper à coups de fouet si fortement que sa peau se déchirait partout dans le corps et le sang coulait à flot. Ensuite il dit: « Mettez-le au cachot, en prison, sans même soigner ses plaies, ni donner à manger, pendant 12 jours. » Vous savez, après une flagellation comme ça, on mourait. Le sang sortait, on ne mangeait rien, on ne pouvait pas vivre, on mourait. Et l'empereur a dû partir quelques jours parce qu'une affaire importante de l'Empire l'avait demandé. Alors il a quitté Alexandrie, mais il avait promis de revenir. Et entre-temps, l'impératrice, qui s'appelait Faustine, avec un de ses serviteurs, Porphyre, sont allés à la prison. Elle a voulu aller voir, elle avait entendu parler de la sagesse de Catherine, elle a voulu aller voir Catherine, Sainte Catherine. Elle est entrée dans le cachot, et qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit Sainte Catherine qui n'avait plus une seule blessure, comme s'il n'avait jamais rien eu. Il était là, en bonne santé. Alors elle vient lui parler, puis entendant cette sagesse, elle se convertit. Et Porphyre aussi. Et il y avait des soldats qui étaient là aussi, qui se sont convertis, entendant la sagesse de Catherine. Plus tard est arrivé l'empereur, de nouveau, fait revenir Sainte Catherine devant lui, et il essaye de nouveau de la convaincre. Il était très surpris de voir qu'elle n'avait plus aucune blessure. Il a pensé que c'était un tour de magie, et puis rien à faire. Elle ne voulait rien savoir. Alors elle a essayé de lui parler. Mais enfin, sois un peu plus intelligent que ça, et essaye de raisonner un peu. Rien à faire. Oh, il s'est devenu fâché. Alors un bourreau lui a dit, moi je vais déjà lui faire quelque chose. Alors ils ont préparé 4 roues, c'était des grandes roues, et sur le bord de la roue ils avaient attaché des bouts de métal, des bouts de couteau, des bouts de scie, tout un tas de choses qui déchiraient. Elle a dit, on va la faire souffrir un peu, vous verrez qu'elle va abandonner son dieu, elle va adorer les dieux romains. Alors devant la place publique, tout le monde était là, les bourreaux aussi, les soldats, on l'avait attachée, et on faisait tourner les roues, et puis on approchait les roues d'elle, et alors ces roues déchiraient tout le corps. Dans tous les sens. Il y avait des roues qui tournaient dans le sens, des roues qui tournaient dans le sens là. Elle était complètement déchiquetée. Alors on met en marche les roues, on approche les roues, et tout d'un coup, les roues partent en éclats dans tous les sens avec un bruit effrayant. Si bien que plusieurs qui étaient là autour, des bourreaux, des gens, ont reçu des morceaux de ces roues et des morceaux de fer, et il y en a une quantité qui sont morts. Beaucoup qui étaient là, qui ont assisté à ça, sont dit, le dieu de Catherine est le vrai dieu. Il n'y a que ce Dieu qui est le vrai Dieu. Alors ils se sont dit, nous aussi on croit à ce Dieu. Vous pensez bien que l'empereur est devenu encore beaucoup plus furieux. Plus il faisait quelque chose pour essayer de la convaincre, plus il y en avait de ceux qui se convertissaient. Alors il a ordonné de les faire tuer. 200 soldats se sont fait tuer à cause qu'ils ont cru. Puis l'impératrice, voyant cela, est venue dans la cour et elle a reproché à l'empereur ses cruautés. Et l'empereur est encore beaucoup plus furieux. Quoi, toi encore? Tu crois à ça? Alors il l'a fait emmener et ils la font tuer en dehors de la ville. Puis, il voulait aller revoir le corps de l'impératrice et il ne trouvait plus le corps de l'impératrice. Alors furieux, il a cru que c'était les soldats qui, au lieu de l'avoir tué, l'ont libéré et laissé partir. Alors il a commencé à faire flageller les soldats qui auraient dû mettre à mort l'impératrice. Et à ce moment-là, arrive Porphyre, Cérite. Porphyre dit, non, eux, ils ont fait leur travail. Mais moi, je l'ai enterré, l'impératrice. Et moi aussi, je suis chrétien. Encore toi, mon serviteur, le meilleur de mes serviteurs, tu te fais chrétien. Alors aussi, il le fait tuer. Vous pensez bien, il était de plus en plus furieux. Et ensuite, il dit, ça ne peut plus continuer comme ça. On n'a encore pas pu mettre à mort Sainte Catherine avec la roue et les roues sont partis en éclats. Alors il lui a fait couper la tête. Et les anges sont venus prendre son corps et l'ont emmené sur le mont Sinaï. Le mont Sinaï, c'est le mont sur lequel le bon Dieu avait donné les 10 commandements. Vous vous rappelez, Moïse était monté sur le mont Sinaï et il avait reçu les 10 commandements. Eh bien, Sainte Catherine, en l'honneur de Moïse, qui avait reçu les 10 commandements, elle avait fait construire un monastère avant son martyre. Eh bien, les anges ont apporté son corps sur le mont Sinaï. Voilà. Eh bien, il nous faut demander à Sainte Catherine ce courage qu'elle a eu, voilà, pour être témoin de notre Seigneur Jésus-Christ. Tant pis. Et puis aussi lui demander la grâce d'avoir cette sagesse, de connaître Dieu, de l'aimer comme elle l'a connu, comme elle a aimé. C'est la science de Dieu, voyez. C'est la plus belle de toutes les sciences. Les autres sciences sont les sciences des choses que le bon Dieu a créées, mais la religion, c'est la science du Créateur, la science de ce que Dieu nous a révélé. Il nous faut lui demander que nous aimions le catéchisme, que nous aimions la science du bon Dieu et que nous aimions ce Dieu si bon. Maintenant, elle est au ciel. Et tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ, ces philosophes, tout ça, mais là, ils sont au ciel aussi. Qu'est-ce qu'ils sont heureux maintenant d'être là-haut? Mais Maximin, je ne crois pas qu'ils sont au ciel. Hein. Et tous ces bourreaux, je ne crois pas qu'ils sont au ciel. Hein. Alors demandons à Sainte Catherine que nous sachions aussi toujours préférer notre Seigneur Jésus-Christ à tout ce qui n'est pas lui, des choses qui nous détournent de Dieu. Et puis demandons aussi qu'un jour nous puissions aller la rejoindre au ciel. Aimons-la. Avant qu'on lui coupe la tête, elle avait dit au bourreau, « Attends, je vais encore faire une prière. » Et tout d'un coup, on entendit une voix du ciel qui disait, « Courage, ta couronne est préparée, tu vas pouvoir entrer dans le ciel, et tous ceux qui vénéreront pieusement ton martyr, je les prendrai au ciel. » Donc, vénérons bien Sainte Catherine, aimons-la, et le bon Dieu, certainement, qui tiendra sa promesse, si nous le faisons. Alors demandons aussi à la Sainte Vierge, que Sainte Catherine a beaucoup aimé, qui a aussi aidé Sainte Catherine à défendre les droits de notre Seigneur Jésus-Christ contre cet empereur païen, tous ces bourreaux, et bien de nous donner cette connaissance, cet amour de notre Seigneur Jésus-Christ et cette fidélité jusqu'à la fin. Que nous ayons la grâce de persévérer jusqu'à la fin, car seuls ceux qui persévéreront pourront entrer dans le ciel. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Autrefois, ou il y a déjà très longtemps, l'Espagne était envahie par une peuplade qui, eux, n'honoraient pas le vrai Dieu, les musulmans ou les maures. Et ils ont fait souffrir passablement les chrétiens à cette époque. Et il y avait dans une ville qui s'appelait Caravaca des chrétiens qui étaient emprisonnés depuis longtemps. Et un jour, le roi de Caravaca a eu pitié d'eux. Alors il est allé à la prison, il a fait venir ses gardes, les geôliers, il a fait ouvrir les portes des prisons. Il leur a dit, eh bien écoutez, je vais vous redonner la liberté. Je pense que cela a dû être obtenu par la prière des chrétiens. Les chrétiens ont beaucoup prié pour ce roi et pour leur pays. Alors le roi disait à chacun, vous allez pouvoir retrouver vos métiers que vous exerciez. Toi, qu'est-ce que tu faisais? Alors il lui disait, moi je suis tailleur de pierre. Eh bien tu pourras librement reprendre ton art de tailler les pierres. Et toi, qu'est-ce que tu faisais? Moi, je suis menuisier. Eh bien, tu pourras aussi t'établir et reprendre ton travail et exercer ton art. Et toi, qu'est-ce que tu étais? Oh, moi, j'étais agriculteur. Eh bien, c'est pareil. Et à chacun, le roi demandait quel était son métier, quel était son art. Et parmi ces chrétiens, il y avait un prêtre. Et arrive le prêtre, il lui dit, et toi, qu'est-ce que tu exerçais comme art? Alors le prêtre répond, moi, j'exerçais l'art de faire descendre le Dieu Tout-Puissant sur la terre. Alors vous comprenez que le roi était bien surpris. Comment? Quel drôle d'art! Alors ça, je veux voir. Tu pourras exercer ton art. Alors le prêtre lui dit, eh bien écoutez, pour exercer mon art, j'ai besoin d'objets précieux, différents objets qu'il n'y a pas ici. Alors le roi lui dit, eh bien, écris dans les pays chrétiens qu'on t'envoie tous ces objets. Et c'est ce qu'a fait le prêtre. Il a écrit, on lui envoie tout ce qui était nécessaire. Alors il a dressé une liste détaillée de tout ce qu'il fallait. Et au bout d'un certain temps, bien sûr, tous ces objets sont arrivés. Alors le prêtre a commencé à préparer l'autel, mettre les chandeliers, les canons d'autel, le missel, le ciboire doré avec des hosties, le calice. Et il manquait quelque chose. Il manquait la croix. Alors il était tout ennuyé. Il a fallu des semaines pour faire venir tout ce matériel. Que faire? Est-ce que je vais monter à l'autel célébrer la messe ou pas? Il hésitait. Et le roi s'est aperçu de cela. Ah, il s'est dit, qu'est-ce qui vous arrive? Vous ne vous rappelez plus comment est-ce que vous devez exercer cet art de faire descendre le Dieu Tout-Puissant sur la terre? Alors le prêtre lui dit, non, ce n'est pas cela, c'est que j'ai oublié. Il manque un objet. Il manque la croix. Alors le prêtre s'est mis à supplier le ciel. Ils étaient déjà tous dans la chapelle. Tout d'un coup, la voûte de l'église s'est entrouverte et deux anges lumineux, plus lumineux que le soleil, sont apparus et ont apporté la croix, une croix lumineuse. Si bien que le roi et tous les morts qui étaient là, tous ceux qui étaient là, tombaient la face contre terre, éblouis par la lumière, et ils ont cru que ces deux anges étaient les dieux. Et ils sont restés ainsi jusqu'à ce que, après avoir déposé la croix, les anges sont repartis. Et bien voilà. Voilà ce qui se passe à la messe. À la messe, Dieu du ciel, le Dieu Tout-Puissant, descend sur l'autel. Je vous disais la dernière fois que la messe, c'est un trésor caché, caché à beaucoup de chrétiens. Peu de chrétiens savent ce que c'est que la messe. S'ils savaient, ils assisteraient à toutes les messes qu'ils pourraient chaque jour. Eh oui. Et c'est pourquoi autrefois les gens assistaient beaucoup aux messes. Déjà le matin de bonne heure, ils allaient à des messes qui étaient célébrées déjà 6 heures le matin. Tellement ils avaient compris l'importance, la grandeur de la messe. Le Dieu du ciel, le Dieu Tout-Puissant qui descend. La messe est un cadeau que nous a laissé Jésus. La messe est plus précieuse que le soleil. Voyez, sans le soleil, le monde ne pourrait pas exister. Eh bien, sans la messe, le monde ne pourrait pas exister. Parce que sans la messe, le bon Dieu ne nous donnerait pas de grâce. Il y a partout dans le monde les messes qui sont célébrées, qui font descendre de Dieu Tout-Puissant sur nos autels. Et vous savez qu'il y en a un qui n'aime pas du tout la messe, c'est le démon. Il est furieux, il a toujours combattu contre. Au début, quand l'Église commençait à grandir, le diable s'arrangeait pour faire persécuter les chrétiens, les faire martyriser. C'est pourquoi on appelle la période des martyrs. Pendant 300 ans, plus que 300, 315 ans, les chrétiens ont souffert beaucoup le martyr. Ils ont été tués parce qu'ils étaient fidèles à Jésus. Et les prêtres aussi étaient très pourchassés lorsqu'ils célébraient la messe. Quelquefois, on leur coupait la langue pour pas qu'ils puissent continuer de dire la messe, ou les mains. Et ensuite, lorsque l'Église a été délivrée de cette période de persécution par l'empereur Constantin, qui était un empereur romain, alors le diable a essayé d'autres façons de lutter contre la messe. En faisant croire qu'à la messe, c'était rien du tout, c'était qu'un morceau de pain avec un peu de vin et qu'on avait fait toute une histoire autour de ça. Et il y a des gens qui croyaient ce que le diable faisait savoir. Il y a eu des miracles, je vous avais dit la dernière fois, le fameux miracle de Lanciano, mais il y en a eu beaucoup d'autres, beaucoup, beaucoup. Le miracle de Bolsena, le miracle d'Orvieto. On peut encore aujourd'hui aller voir ces choses. Et plus tard, et bien sûr, il y a eu la crise protestante. Et là, ça a été un coup terrible contre la messe. Luther disait, la messe, c'est la pire des choses. C'était un crime, disait-il. Et Luther a dit lui-même qu'il a eu une nuit, une discussion avec Satan. Et Satan lui dit, mais qu'est-ce que tu fais? Tu fais des choses qui ne servent à rien, tu n'y crois même pas. Et il lui a fait croire, et il a cru d'ailleurs, et il le dit lui-même, il a écrit tout ça, que c'est le diable qui lui a fait dire toutes ces choses vilaines sur la messe. Le diable n'aime pas du tout la messe, parce que par la messe, on attire Dieu sur la terre. Et le diable ne veut pas, il veut nous couper du bon Dieu pour nous être avec lui en enfer. Tout ce qui est utilisé pour la messe, ce sont des choses qui ont été bénies, qui ont été exigées avec beaucoup de soin, bénies ou même consacrées. Déjà les églises ne sont pas des bâtiments comme les autres, ils ont été consacrés avec l'huile sainte, par une cérémonie qui dure plusieurs heures. Tout cela pour que ce lieu soit réservé à ce culte essentiel. Ces églises sont bâties pour la messe. Toutes ces belles cathédrales, ces beaux édifices, ces belles basiliques qu'il y a dans le monde, tous nos ancêtres les ont bâties, ils ont mis des fois plus que 100 ans pour la construire, pour donner un lieu digne pour la messe. Voilà. Où est célébré ce sacrifice, où il y a la rencontre entre le ciel et la terre. Voyez. Alors il faut que vous ayez une grande estime de la messe. C'est le plus beau cadeau que nous puissions avoir sur la terre. Il n'y a rien de plus beau que le saint sacrifice de la messe que nous a donné Jésus-Christ. C'est Jésus qui nous l'a donné pour que jusqu'à la fin du monde, nous puissions profiter de tout ce qu'il nous a obtenu par sa mort, par sa passion. Alors cette passion, ce sacrifice est renouvelé tous les jours sur nos autels. Bien sûr, pas d'une façon sanglante, comme ça a eu lieu au Golgotha, sur le calvaire, mais le vrai et le réel sacrifice. Alors mes bien chers enfants, il faut que nous demandions à la Très Sainte Vierge qu'elle nous apprenne à profiter bien de ces saintes messes, à prier avec ferveur, avec recueillement. La messe nous est plus utile que le soleil. N'oublions pas cela. Sans le soleil, on ne peut pas vivre. Sans la messe, on ne peut pas avoir la vie surnaturelle. On ne peut pas conserver la vie surnaturelle. Alors il nous faut demander que nous sachions apprécier la messe à sa juste valeur. Autant nous ne pourrons pas comprendre tout à fait, mais quand même que nous puissions comprendre suffisamment pour avoir une grande dévotion envers la messe. Oui. C'est l'acte le plus important de notre religion, c'est le cœur de notre religion. C'est l'essentiel, la partie la plus importante de notre religion. Par cela, nous rendions à Dieu vraiment le culte qui lui est dû. Nous lui sommes tout à fait agréables. Il faut demander cela aussi à tous les saints qui ont une grande dévotion à la messe. On dit que le roi Saint-Louis, ce n'était pas n'importe qui, le grand roi Saint-Louis, quand il se déplaçait avec ses officiers, même avec son armée, qu'il passait des fois dans la campagne et qu'il entendait sonner la cloche, il se rendait à la chapelle et il allait assister à la messe. Et bien souvent, il allait servir la messe, le grand roi Saint-Louis. Et quand il ne pouvait pas, parce qu'il était trop éloigné, il faisait arrêter ses soldats, ses ministres, sur place, ils se mettaient à genoux et ils adoraient Dieu, qui descendait dans l'église
Voilà. Et quelquefois, le roi Saint-Louis assistait à plusieurs messes par jour. Et il servait plusieurs messes par jour, tant il avait apprécié la messe. Il avait une grande foi. Un jour, un de ses ministres est venu lui dire, en courant, tout essoufflé, « Sire, venez voir, à la chapelle, il y a l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ se montre là, on voit son visage. » Il y avait un miracle qui s'était effectué dans la chapelle. Et le roi a répondu, « Je n'ai pas besoin d'aller voir. » « Comment ? Mais il se montre !»« Non, je n'ai pas besoin d'aller voir. » Parce que je crois et cela me suffit. Il croyait suffisamment qu'il n'avait pas besoin de voir l'image de Jésus. Quand il recevait l'hostie, il savait qu'il recevait Jésus lui-même. La grande foi qu'avait Saint-Louis. Voilà, eh bien, nous faut demander cette foi, voyez, à la très sainte Vierge, à ses saints, à Saint-Louis. Aujourd'hui, c'est le pape Saint-Lin. C'est le pape qui a succédé à Saint-Pierre. Voilà, c'est le deuxième pape que l'Église a eu. D'ailleurs, vous le verrez, il est mentionné dans la messe, l'un, Six, Clément, Corneille, Cyprien, etc. sont tous les papes, mais l'un est le celui qui a suivi Saint-Pierre. Voilà, alors demandons à Notre-Dame, à tous ces saints, de nous donner une grande dévotion pour le saint sacrifice de la messe, et puis que nous sachions assister avec recueillement, avec grandeur d'âme, avec application. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Vous vous souvenez de ce que je vous avais dit la dernière fois, de ce moine qui mettait si longtemps à dire la messe, que les servants de messe ne restaient plus, ils partaient. Ils n'attendaient pas la fin de la messe, tellement ils mettaient long pour dire la messe. D'abord, le supérieur était fâché, il voulait qu'il dise la messe comme les autres, plus vite. Mais quand ce religieux dit à son supérieur que Jésus lui apparaissait pendant la messe et qu'il lui disait tous les mystères qu'il y avait pendant la messe, le supérieur était si étonné qu'il a failli perdre connaissance. Tellement il a été en admiration et aussi effrayé de savoir tous les mystères qui se réalisent pendant la messe. Essayons de voir un peu. Oh, on n'arrivera pas à voir tous les mystères, bien sûr, mais quelques-uns. Voyons par exemple le mystère de l'incarnation. Vous savez que dans notre religion, il y a trois principaux mystères. Vous les connaissez, vous devez connaître ça sur le bout du pouce. Un mystère de la Trinité, mystère de l'incarnation, mystère de la rédemption. Essayons de voir ce mystère de l'incarnation. Qu'est-ce que c'est que le mystère de l'incarnation? Vous le savez, vous l'avez appris, vous l'avez vu au catéchisme. Le mystère de l'incarnation, c'est le mystère du Fils de Dieu qui prend un corps de chair comme le nôtre. Le Fils de Dieu, il n'a pas de corps avant de s'incarner. Il est Dieu, Dieu qu'est-ce qu'il est? Il est pur esprit. Hein? Eh bien, dans le mystère de l'incarnation, il prend un corps. Quand est-ce qu'il a réalisé cela? Il a réalisé cela le jour de l'Annonciation. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Eh bien, Dieu a envoyé un ange auprès de la Sainte Vierge qui habitait à ce moment-là Nazareth. Eh bien, de la Sainte Vierge, ce jour-là, s'était offerte tout entière à Dieu. Elle avait offert son corps, son âme, pour que la volonté de Dieu se fasse toujours. Et vous savez, tous les saints ont fait cela. Se sont offerts à bon Dieu en disant, « Mon Dieu, je m'offre à vous pour que vous puissiez vous servir de moi pour répandre vos bienfaits sur la terre. » La Sainte Vierge l'avait fait aussi. Eh bien, à la messe, le prêtre offre l'hostie, qui n'est qu'un morceau de pain, qui est un peu de farine avec de l'eau cuite. Ça fait la petite hostie. Il offre l'hostie, il offre du vin. Et le Saint-Esprit, qui est venu former le corps de Jésus dans la Sainte Vierge, eh bien, va transformer cette hostie que le prêtre offre et ce vin que le prêtre offre au corps de Jésus. Si bien que Jésus renouvelle ce mystère de l'incarnation. Chaque fois que l'on assiste à la messe, eh bien, Jésus s'incarne à nouveau, réellement. Voyez, il renouvelle son incarnation qu'il a réalisée le jour de la fête de l'Assomption. Et le prêtre, donc, tient dans ses mains, porte en ses mains le même Jésus que la Sainte Vierge a porté pendant 9 mois. Le même Jésus. Voilà ce qui se réalise à la messe, le mystère de l'incarnation qui est renouvelé. Et vous savez ce que disait Saint Augustin, le grand
Saint Augustin, qui était un père de l'Église, un homme éclairé du Saint-Esprit, qui avait dit de très belles choses sur Dieu, eh bien Saint Augustin, quand il parle du prêtre, il dit « Ce Dieu qui a fait de rien tout ce qu'il a fait, sans que personne ne l'a aidé, sans que personne ne lui ait donné un conseil, sans l'aide de personne, il a fait tout ce qu'il a créé et il a donné au prêtre le pouvoir de reproduire Dieu dans ses mains. Il a donné aux prêtres, qui sont ses créatures, les créatures du bon Dieu, de faire venir le Créateur sur l'autel. C'est un pouvoir merveilleux. Bien voilà, à quel mystère vous assistez pendant la messe? Ce n'est pas peu de choses. Jésus, à la messe, renouvelle sa naissance. Oui, 9 mois après, la Sainte Vierge est allée à Bethléem et l'enfant Jésus est né miraculeusement. Eh bien, à la messe, Jésus naît des lèvres du prêtre, des paroles que le prêtre prononce. Dès que le prêtre a prononcé les paroles de la consécration, Jésus naît de nouveau sur l'autel. Et le prêtre, dès qu'il a fini de prononcer les paroles de la consécration, si vous avez remarqué, il fait la génuflexion. Pourquoi ? Eh bien, pour témoigner sa foi en la présence de Jésus sur l'autel. Il fait cette génuflexion pour adorer. Comme les rois mages, on fait la génuflexion. Comme les bergers à la crèche aussi, on fait la génuflexion. Ils se sont agenouillés. Comme la Sainte Vierge, comme Saint Joseph, quand ils ont posé l'enfant Jésus dans la crèche, on fait la génuflexion. Ils l'ont adoré. Le prêtre aussi, il fait la génuflexion et il l'adore. Et ensuite, qu'est-ce qu'il fait ? Il lève l'hostie pour présenter l'enfant Jésus à tous ceux qui assistent à la messe. Comme la Sainte Vierge a présenté l'enfant Jésus aux bergers, aux rois mages, à tous ceux qui sont venus à la crèche. Voyez les mystères qui se réalisent à la messe ? Ce n'est pas rien. C'est pour ça qu'à la messe, il faut avoir tout le recueillement, toute l'attention possible devant ces merveilles que le bon Dieu réalise à nouveau sous nos yeux. Bien sûr, les bergers à la crèche, ils ont vu un joli petit enfant et ils ont cru que c'était Dieu parce qu'ils ont dit « Cet enfant nous a été annoncé par un ange. » Et l'ange nous a dit « Un Messie est né, le Sauveur est né, allez vite. » Alors on a cru. Les rois mages aussi, ils ont vu un petit enfant, mais ils ont cru que c'était plus qu'un enfant, que c'était vraiment le bon Dieu, puisqu'ils ont dit « Comment ?» Une étoile dans le ciel qui vient nous avertir de la naissance d'un enfant. Mais qui est-ce qui peut commander aux étoiles? Il n'y a que Dieu qui peut commander aux étoiles. Et Dieu a commandé qu'une étoile vienne nous avertir et nous guider jusqu'à cet endroit où est né l'enfant Jésus. Eh bien, les bergers ont vu ce petit enfant, les rois mages ont vu ce petit enfant. Mais nous, nous voyons une hostie. Mais nous croyons et nous avons plus de chance que les bergers et que les rois mages. Parce que nous devons faire un acte de foi plus grand dans la présence de Jésus. Un acte de foi en disant, cette petite hostie n'est pas du pain, ce qui est dans le ciboire n'est pas du vin, ce qui est dans le calice n'est pas du vin, mais c'est le corps, c'est le sang, c'est Jésus avec son corps, son âme, sa divinité, c'est ce beau petit enfant que les bergers, que les rois mages ont adoré à la crèche. Eh bien, ça, c'est un des mystères que le bon Dieu révélait à ce religieux qui mettait tant de temps pour dire la messe. Il lui a révélé ce mystère et encore bien d'autres mystères, mais entre autres celui-là. Alors pensez à ça, voyez. Pensez que dans un instant, lorsque le prêtre aura prononcé les paroles, eh bien, l'enfant Jésus va s'incarner, le Fils de Dieu s'incarne et il va naître sur l'autel. Quand l'enfant de cœur sonnera la clochette, quand vous serez dans le silence, puis tout d'un coup vous entendrez « dring, dring ». Attention, on approche du moment important de la messe, du centre de la messe. Le Fils de Dieu va renouveler ce mystère de l'incarnation. Là, l'enfant Jésus va naître à nouveau, de la bouche du prêtre, des paroles que le prêtre va prononcer. Voilà. Alors, quand vous entendrez la clochette, vous vous recueillerez bien davantage. Et vous penserez à cela. Quand le prêtre élèvera l'hostie, vous l'adorerez. Vous verrez le prêtre faire la génuflexion. Vous l'adorerez aussi. Vous direz dans votre cœur, « Oh Jésus, moi aussi je vous adore. Je crois que vous êtes là, dans cette petite hostie. Voilà, vous, mon Dieu qui m'avez créé, je vous adore et je me réjouis de vous recevoir dans un instant. Vous allez venir dans mon âme par la communion. Je veux préparer mon âme comme la Sainte Vierge et Saint Joseph ont préparé la crèche pour vous accueillir le mieux possible. Et alors, vous allez demander à la Sainte Vierge aussi de vous aider à faire bon accueil à cet enfant Jésus qui se réjouit de venir dans votre cœur. L'enfant Jésus se réjouit de pouvoir venir habiter dans votre cœur comme il est venu habiter dans la grotte de Bethléem. J'espère que votre cœur sera plus beau que la grotte de Bethléem, qu'il ne sera pas aussi froid que la grotte de Bethléem, qu'il soit fleuri, que vous aurez des petits cœurs fleuris par les prières, par l'application, les sacrifices. Ça, c'est la façon de fleurir les cœurs. Nous demanderons à la Sainte Vierge de bien nous disposer à recevoir l'enfant Jésus qui, dans un moment, va naître sur l'autel. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.
Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Qu'est-ce que communier? Vous savez, vous l'avez appris dans le catéchisme. Communier, c'est recevoir Jésus dans son âme. Jésus a voulu devenir une nourriture. Jésus a voulu que nous le mangions pour que nous nourrissions notre âme. La communion, c'est la nourriture de notre âme. Et pourquoi Jésus veut que nous communions? Eh bien, c'est que par ce moyen-là, nous allions au ciel. Que fait Jésus lorsque nous communions? Il nous fait aller au ciel. Il veut que par la communion, nous allions au ciel. Et pour aller au ciel, il faut deux choses. Il faut l'état de grâce et il faut aimer le bon Dieu. Eh bien, la communion nous aide dans tout cela. D'abord, comment? La communion, d'abord, détruit en nous le péché. Vous savez, souvent, on commet beaucoup de péchés. On n'est pas obéissant, on est gourmand, etc. Eh bien, par la communion, le péché est détruit en nous. Et plus vous communierez, moins vous commettrez de péchés. Donc il est important de bien communier. Et d'autre part, la communion nous aide à faire notre devoir d'État, à aimer le bon Dieu. Comment aime-t-on le bon Dieu? Ce n'est pas en disant « Mon Dieu, je vous aime ». Non, c'est en faisant son devoir d'État. Si vous ne faites pas votre devoir d'État, ça veut dire que vous n'aimez pas le bon Dieu. Eh bien, la communion, justement, notre Seigneur, lorsque nous communions, nous donne la force pour bien faire notre devoir d'État, pour voir ce que nous devons faire, pour bien comprendre ce que nous devons faire, et surtout la force. Par exemple, être obéissant, ne pas répondre, ne pas dire des gros mots, ne pas être gourmand, bien s'appliquer à l'étude, à l'école, faire attention. Eh bien, tout ça, vous ne l'obtiendrez qu'en communiant convenablement. Alors, il s'agit de bien communier. Beaucoup de gens communient, beaucoup de personnes communient, et pourtant rien ne change. Pourquoi? Parce que les communions sont mal faites. On ne se prépare pas à recevoir Jésus. On arrive au banc de communion en regardant à gauche, en regardant à droite, en pensant ce qu'on va faire après la messe. Alors que nous recevons notre Dieu dans notre cœur, c'est Jésus qui descend dans notre âme et on est distrait. Mais la première chose, lorsque vous approchez du banc de communion, pensez que vous allez recevoir Jésus. Et ensuite, quand vous avez reçu Jésus dans votre cœur, eh bien, il faut d'abord le remercier. Il ne s'agit pas non plus de partir. Lorsque Dieu habite en vous, eh bien, il s'agit de penser qu'il habite là, au fond de votre cœur. Et donc, première chose à faire, c'est le remercier. Et ensuite, eh bien, faites des actes de foi, d'espérance et de charité. C'est à ce moment-là qu'il faut réciter l'acte de foi, d'espérance, et surtout l'acte de charité. « Mon Dieu, je vous aime par-dessus toutes choses, vous qui êtes présent ici dans mon cœur. Donnez-moi toutes les grâces pour aller au ciel. » Le bon Dieu, lorsqu'il est en votre cœur, il veut donner tous ses trésors. Bien, c'est la grâce que nous demanderons donc à la Sainte Vierge, et d'aimer Jésus lorsqu'il descend dans vos âmes. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.